Je réfute totalement ce que
tu dis. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. La loi cadre numéro 086-005 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national vient d'être modifiée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. Parmi les innovations introduites figure notamment l'élection des animateurs des organes de l'enseignement supérieur et universitaire par leur pair, ainsi que la création et l'intégration parmi les organes de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire du Conseil académique supérieur et du Conseil de l'enseignement supérieur et universitaire privé. Que pensez-vous de ces innovations et quel pourrait être leur impact sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire? Gérard Lungembo assure la coordination et la réalisation de cette émission mise en onde par Willem Lungamba. Piero Elamiji vous la présente sous la supervision de Ben Kabamba. Nous avons en ligne le professeur Dieudonné Kalindier qui est conseiller chargé des textes organiques au conseil d'administration des universités. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero Elamiji.
Vous pouvez également nous joindre au 081-890-4969, 081-890-4969 pour intervenir en direct. Comme je venais de le dire tout à l'heure, le Parlement a revu la loi cadre de l'enseignement national. Elle a été promulguée, plusieurs innovations ont été introduites, mais nous aujourd'hui nous nous penchons sur deux aspects, qui est l'aspect de l'élection des animateurs des organes de l'enseignement supérieur et universitaire par leur père, mais aussi la création et l'intégration parmi les organes de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire du Conseil académique supérieur et du Conseil de l'enseignement supérieur et universitaire privé agréé. Voilà les deux aspects qui font l'objet de notre échange aujourd'hui. C'est que vous pensez de cela, mais surtout l'impact que pourraient avoir ces innovations sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons en direct le professeur Dieudonné Kalindier qui est avec nous dans cette émission pour échanger. Professeur Dieudonné Kalindier, bonjour.
Bonjour, cher ami.
Merci d'avoir accepté notre invitation et de partager ce sujet avec les auditeurs de Radio Capi. Avant peut-être qu'on voie ces innovations qui font l'objet de notre échange aujourd'hui, est-ce qu'il était opportun qu'on puisse revoir la loi cadre de l'enseignement?
Oui, il y a une opportunité par cette loi cadre, de l'enseignement national qui a été promulguée par le chef de l'État depuis le 11 février 2014 et est un pas décisif parce que l'ancienne loi cadre datait de près de 28 ans, donc 22 septembre 1986, aujourd'hui d'après le 11 février 2014, ça fait près de 28 ans. Et il fallait adapter notre curricula. Pas tout a changé au niveau, par exemple, du curriculum au niveau primaire, secondaire, supérieur, universitaire. Donc c'est un pas de géant. Et je pense que le Parlement a bien fait de s'attaquer à cette réforme. Et qui a commencé depuis 2010. Hein. Donc c'est une loi qui a commencé depuis 2010 à l'Assemblée nationale, au Sénat, après une commission paritaire, et voilà, il y a une harmonisation et la loi est là.
Et nous prenons deux aspects, hein, comme on l'a dit dans cette émission. D'abord, l'innovation, cette innovation autour de l'élection de membres des organes, des animateurs des organes de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est dit que désormais ils seront élus par leur pair. Peut-être pour permettre aux auditeurs de comprendre c'est quoi quand on parle de membres des organes de l'enseignement supérieur et universitaire, qui sont ces membres, qui sont ces organes, pour permettre aux auditeurs de comprendre.
Merci. L'enseignement supérieur et universitaire a des organes d'administration. Et la présente loi épingle les 12 organes d'administration Au sommet, vous avez les ministres de l'enseignement supérieur universitaire. Et à la base, vous avez les conseils départements. Et comme deuxième organe, c'est le conseil académique supérieur. Et comme septième organe, comme vous l'avez dit dans l'émission, c'est le conseil de l'enseignement supérieur universitaire privé agréé. Donc, dans ces organes, en dehors, naturellement, il y a des organes où il faut absolument une élection. Et là, c'est l'article pratiquement de cette loi. Il y a des dispositions de cette loi qui...
L'article 153, qui,
l'article 153. 153 de la présente loi, et qui spécifie les animateurs qui devraient être élus, pas tous. Donc, comme je vous ai dit, il y a 12 organes, mais ceux qui doivent être élus, c'est pas leur père, c'est le président et les vice-présidents du conseil d'administration de l'université, les recteurs et les directeurs généraux des établissements publics. Voilà les trois personnalités qui doivent désormais être élus par leur père et investis par l'ordonnance du président de la République.
Et là, la loi précise que le secrétaire général académique, le secrétaire général administratif et l'administrateur du budget, et ils sont nommés par le ministre ayant en charge.
Naturellement, donc la loi a fait l'équilibre. Si le numéro 1, donc le recteur ou le directeur général, n'est-ce pas, sont élus à la base et investis par les chefs de l'État, les autres membres du comité de gestion, donc les sujets académiques, comme vous venez de le dire, l'administratif et l'AB, sont et nommés par le ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions. Naturellement, dans la mesure d'application, et ça c'est le vœu même des conseils d'administration, et il faut que ces trois personnalités puissent avoir le quitus même du conseil académique et supérieur. Parce que il faut éviter la politisation actuellement de l'enseignement supérieur universitaire. La loi, c'est, comme je vous ai dit, c'est un pas des géants. Alors si vous avez un recteur élu qui a la confiance de la base, il fallait que les autres puissent avoir une certaine légitimité. Et la légitimité, ils peuvent les trouver à travers d'autres organes tels que les conseils d'administration des universités, des supérieures, techniques, technologiques, etc.
Professeur, ben, revenons d'abord, parce que s'il y a cette innovation, c'est qu'il y avait, des problèmes avant. Mais quel a été l'impact négatif, et, s'il y en avait, du fait que les animateurs, que ce soit les recteurs, les DG et les autres étaient nommés dans les temps, est-ce que cela avait un impact négatif sur le fonctionnement des universités et la qualité du travail?
Oui, c'est-à-dire que je ne peux pas être tout sec pour dire qu'il y avait un impact négatif ou positif. Vous savez, lorsqu'il y a toujours un ministre qui est nommé, il y a les amis, les frères, le cousin, qui en fait postulent. Parce qu'on sait que les ministres, à l'époque, même aujourd'hui, la loi, vous devez savoir que même sur la loi des 025, la loi sur l'enseignement supérieur universitaire, la loi 025, n'est-ce pas? Et même les ordonnances des établissements précisent que les recteurs et les directeurs généraux ne peuvent être nommés que par le président de la République. Mais on a constaté ces deux années qu'il y a eu des nominations des recteurs intérimaires, des DG intérimaires. C'était déjà une méprise par rapport à l'ancienne loi. Mais aujourd'hui, on peut se réjouir parce que les effets de la politisation vont diminuer. On ne peut pas avoir la crainte de les dire. Et que même si dans cet établissement, c'est vrai, on nommait les personnes qui étaient compétentes, qualifiées, managers, mais dans certains établissements, on a remarqué que il y avait des conflits entre les membres du comité de gestion. Même dans les établissements de l'intérieur, où vous avez les assistants, les chefs de travaux qui dirigent les établissements d'enseignement supérieur universitaire. Donc, ça mettra un fin à cette mégestion, parce que ceux qui sont élus par leurs pairs devront mieux administrer les universités supérieures, sinon ils peuvent être censurés de la base.
Professeur, avant d'écouter les auditeurs, le deuxième volet de notre échange, c'est autour de la création et l'intégration parmi les organes de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire du Conseil académique supérieur et du Conseil de l'enseignement supérieur universitaire privé. Alors, dans la configuration actuelle, vous qui avez, je crois bien, vous avez cette loi qui a beaucoup d'articles, est-ce qu'on détermine...
242 articles, 242.
Voilà. Et comment ces organes qui vont être créés, intégrés, vont-ils fonctionner par rapport à la configuration actuelle?
Bon, normalement, d'abord, la disposition de 138 de cette loi souligne que dans les 12 mois, le gouvernement prendra les mesures d'application pour accompagner cette loi. Donc il y a des questions qui sont imprécises dans la loi qui seront complétées et par les mesures d'application.
Voilà.
Et dans les 12 mois, nous espérons. Donc on espère que celui qui est là ou ceux qui sont là parce que la loi ne concerne pas que les SU, il y a les PSP qui est concerné, la terre sociale qui est concernée, et nous espérons que le gouvernement fera diligence. Mais par rapport aux deux organes, les conseils académiques supérieurs, qui est en fait le deuxième organe dans l'administration de l'enseignement supérieur universitaire, c'est un organe consultatif d'harmonisation et de coordination de certaines questions spécifiques. Au niveau, lorsqu'on avait élaboré le pacte de la modernisation de l'enseignement supérieur universitaire en 2003 sous l'égide du professeur Émile Ngoï, on avait déjà ciblé quelques attributions de ces conseils académiques supérieurs. Donc d'abord, ces conseils académiques supérieurs comprendra, n'est-ce pas, un chancelier, des vice-chanceliers, mais aussi à son sein, vous trouverez les partenaires éducatifs tels que la FEC, tels que les syndicats, et il y aura un sera permanent au niveau de ces conseils académiques. Et comme attribution, ces conseils devraient évaluer les mesures académiques, ces conseils devraient harmoniser les principes académiques, ces conseils aussi devraient examiner même les dossiers, donner les avis pour agréer les écoles privées. Parce qu'aujourd'hui, l'enseignement supérieur universitaire a deux secteurs maintenant. Vous avez les secteurs publics et privés. Et même pour les secteurs privés, le législateur a martelé, le législateur a indiqué que pour créer un établissement d'enseignement supérieur universitaire, n'est-ce pas, privé, il faut être doté des garanties juridiques et civiques, des garanties financières et matérielles, des garanties environnementales, des garanties d'encadrement moral, pédagogique, andragogique, académique et administratif. Donc tous les aventuriers aujourd'hui qui se réveillent un matin, ils créent des établissements d'enseignement supérieur, université privée, n'est-ce pas, vont déchanter. Et cet agrément donne d'office la reconnaissance officielle des titres du niveau d'études. Donc les conseils académiques supérieurs, ça sera l'organe d'harmonisation de points de vue. Et même, on dit ça avec les amis, on pourrait même arriver à détacher le grade de professeur ordinaire qui pouvait être de tous les établissements déçus en enseignement supérieur universitaire. Les personnes ordinaires devraient peut-être nommées à ce niveau. Les professeurs méritent, l'admission mérite peut-être à ce niveau. Même la révocation même de professeurs d'université. C'est-à-dire que c'est un organe qui doit harmoniser le curricula et les cursus pour qu'il y ait une certaine harmonie, n'est-ce pas, entre l'enseignement supérieur, n'est-ce pas, qui est cadré sur la spécialisation d'une profession, et l'enseignement supérieur et universitaire plutôt, lui qui est orienté vers la conception, de la formation des cas de conception capable de transformer la société congolaise.
Merci professeur, on vous garde en ligne, on va revenir à vous, hein, le temps d'écouter aussi les auditeurs, mais vous allez préparer aussi la réponse par rapport à cette question, les conseils académiques supérieurs et la structure que vous animez maintenant, les conseils d'administration des universités, comment cela va, comment toutes ces structures vont travailler, on pourra avoir des précisions avec vous, le temps de préparer cela. On va écouter Étienne qui est à Guémena, Toto Kani qui est ici à Kinshasa, 081 890 4 969.
Parole aux auditeurs.
Étienne, vous nous appelez de Guémena dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour à Dokassi, bonjour à tous les auditeurs.
Oui.
À l'invité, le professeur.
Étienne, vous avez suivi notre échange. Hein. Nous avons pris de la loi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'innovations qui ont été introduites, mais nous avons pris juste le 2, hein, l'élection des animateurs des organes, n'est-ce pas, de l'enseignement supérieur. Vous avez suivi par leur pair, mais aussi l'introduction du conseil académique supérieur. Le professeur a donné des explications, des attributions des uns et des autres, plus des précisions. Alors, est-ce que pensez-vous que cela peut arriver à améliorer, à impacter sur la qualité de l'enseignement au niveau supérieur et universitaire?
Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous comprendrez avec moi qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, on est en train de déplorer la baisse même du niveau de cadres qui sortent dans la plupart de nos universités. Quelqu'un qui a son diplôme de licence, de graduat, même qui a son diplôme de doctorat, mais sur le terrain, vous constatez qu'il y a plusieurs lacunes. Donc, à mon avis, je pense que cette innovation et surtout la promulgation de ce décret, c'est une très bonne chose. Mais ce que je voudrais demander d'abord au professeur, c'est que, bon, peut-être qu'il a utilisé, ou soit ils ont utilisé le terme technique, où il parle de l'élection des mandataires de ces organes par leur père. Je ne sais pas s'il peut nous l'expliquer par des termes simples, mais aussi, monsieur le journaliste, je voudrais m'apesantir plus à ce qui concerne les enseignements supérieurs universitaires privés agréés. Mmh. Aujourd'hui, vraiment, je pense que ces mesures, vraiment, est salutaire, parce que dans la plupart des cas, et ici au Congo, ce sont plus les enseignements supérieurs universitaires privés qui constituent des casse-têtes et qui dévalorisent, monsieur le journaliste, la valeur même de l'enseignement supérieur universitaire. Raison pour laquelle vous comprendrez que la plupart des diplômes que donnent les Congolais sont contestés à l'étranger. On est gradué, on est licencié, mais quand on est dans un pays étranger, même dans un pays qui n'a pas une valeur scientifique comme la RDC, mais on néglige ces diplômes. Donc moi, je pense qu'on doit vraiment mettre de l'ordre dans l'enseignement supérieur universitaire privé, parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas de ces universités, le procès venait de parler là. Il faut qu'il y ait garantie financière, il faut qu'il y ait garantie scientifique. Donc, beaucoup de préalables. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Quelqu'un qui a ses affinités avec qui je ne sais au ministère, et il prend de son propre chef, il crée une université, pas de garantie des enseignants, pas des assistants compétents, et on ne ramasse que n'importe quel licencié pour le placer là, pour dispenser. Or, moi, je sais que pour être assistant à l'enseignement supérieur universitaire, dans une institution supérieure universitaire, on doit d'abord distinguer quand on est face au cycle, le premier cycle et au deuxième cycle. On doit distinguer, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on ramasse les satisfaits, on prend n'importe qui, et quand vous suivez même parfois un assistant qui est en train de faire cours devant les étudiants, c'est déplorable, monsieur le journaliste.
Voilà, Étienne, si on vous suit, vous soutenez le fait qu'on ait cette loi, et vous avez demandé au professeur, hein, peut-être que le mot est technique, et quand on dit que ces animateurs sont élus par leur père, hein, qui sont ses pères, ouais, pour qu'ils vous donnent des précisions, et vous pensez qu'il faudrait arriver, comme le disait le professeur tout à l'heure, qu'insister beaucoup plus avec les conseils supérieurs, les conseils académiques supérieurs, les conseils de l'enseignement supérieur et universitaire privé agréé, de pouvoir vraiment marteler sur les conditions de création des institutions privées, parce que c'est là où se posent beaucoup de problèmes au niveau de notre pays. Merci beaucoup, Étienne, de nous avoir appelé de Guémena, dans la province de l'Équateur. Toto Kani, vous êtes ici à Kinshasa, dans la capitale. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez suivi, hein, les deux innovations que nous avons voulu partager ensemble dans cette émission et leur impact sur l'amélioration de la qualité du travail au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Quel est votre point de vue?
Oui, concernant la loi sur l'enseignement supérieur et universitaire, je m'en réjouis dès lors qu'elle a une approche innovatrice en introduisant la notion d'éligibilité des cadres de gestion. Ce vœu a longtemps été exprimé dans les milieux universitaires et intellectuels du pays. Aujourd'hui, s'il trouve un écho favorable du côté du législateur, je pense que c'est un pas important vers la modernisation du secteur. Et j'en profite pour présenter ma déférence au président de la République pour sa promulgation.
Oui.
Ainsi, nous pourrions voir des dirigeants élus qui seront redevables vis-à-vis des agents et étudiants, contrairement à ceux qui sont nommés. Et les conditions de nomination, parfois, sont fantaisistes, ça, on ne peut pas y revenir. Alors, quant au corps électoral, j'aurais souhaité qu'il soit élargi aux étudiants afin d'éviter que les candidats peu crédibles fassent recours à la corruption en vue de se faire élire. C'est au désarroi, parfois, des agents et des étudiants, ainsi qu'à la communauté congolaise dans son ensemble. Alors, les établissements d'enseignement supérieur et universitaire sont minés à l'heure actuelle par plusieurs mots, dont la vague des syllabus, les travaux pratiques, parfois aussi la cotation et autres, ce qui amenuise chaque jour la qualité de l'enseignement au Congo et de ce fait le prestige de toute une nation. Alors, ainsi, il est donc plus que temps de passer aux actions courageuses afin de sauver notre pays de la médiocrité. Je crois que c'est une loi qui tombe bien à propos. Il ne suffit pas qu'elle soit là, mais il suffit surtout de la mettre en pratique et d'une bonne manière. Je crois que elle va beaucoup contribuer pour améliorer la qualité de l'enseignement, améliorer l'image de marque du pays qui a été longtemps ternie sur ce point de sur ce plan-là. Et j'espère que le Congo pourra réellement redécoller.
Merci, voilà, merci beaucoup, Toto Kani. Vous souhaitez que l'élection soit élargie, n'est-ce pas, aux étudiants, et au-delà du fait qu'on ait la loi, il y a d'autres mots qui minent les secteurs. Il faudrait qu'on puisse apprendre des actions courageuses et de mettre cette loi en pratique. On revient à vous directement, professeur Dieudonné Kalindier. Vous avez suivi nos auditeurs. Il y a Étienne Deguébena qui a voulu savoir, mais bon, quand on parle des pères, qui sont ces pères qui doivent constituer le corps électoral de ces animateurs des organes? Mais Totogan a pensé qu'on puisse élargir tout cela pour que le champ des redevabilités puisse être très élargi par rapport au travail que doivent faire ces animateurs, professeur.
Merci beaucoup, cher ami. Bon, je remercie d'abord les auditeurs Étienne et Totogan qui ont amené, en fait, qui ont contribué à ce débat. Bon, vous savez, lorsqu'on parle élection par leur père, c'est-à-dire que toute chose restant égale par ailleurs, lorsque nous voyons dans toutes les universités à travers le monde, et même la loi 025 qui régit encore l'enseignement supérieur, qui n'est pas encore abrogée dans sa totalité, on dit que le recteur ainsi que les directeurs généraux sont nommés par le président de la République parmi les professeurs ordinaire. Bon, deuxième alinéa choisi par la République, le président de la République pouvait nommer tout citoyen compétent et digne. Normalement, les pairs, ce sont les professeurs ordinaires et ceux qui sont admis à l'émérita. Donc, normalement, ça doit être cela. Les professeurs associés qui viennent d'entrer dans la corporation, qui sont associés aux professeurs, les professeurs fous, ne sont pas le père des professeurs ordinaires. Un professeur ordinaire, c'est une personnalité qui a fait au moins 8 ans de profession et a publié, qui a des qualités pédagogiques incontestables, des qualités scientifiques. Quand on dit des pères, en tout cas, c'est à ce niveau-là. Maintenant, on nous dit dans la loi que l'organisation et le fonctionnement des organes sont déterminés par l'ordonnance de la République, naturellement. Cette ordonnance qui sera délibérée en conseil des ministres, je suis bien en conseil des ministres, il ne s'agira pas de 2 ou 3 personnes qui se mettent là-bas à préparer les projets d'ordonnance et les soumettre au président de la République. Je pense que le ministre devra consulter, je loue le ministre Makel Mwangu qui a commencé déjà des réflexions à Zongo et ainsi de suite. Donc c'est une très bonne chose. Les réflexions, on doit consulter la base, mais à ce qui concerne le père, il s'agit de professeurs ordinaires. Maintenant, le problème va se poser. Dans les établissements où il n'y a pas de professeurs ordinaires, normalement, il faudrait que ces établissements ferment, ou bien, moi qui suis professeur ordinaire de l'UNIKIN, je peux, comme le Congo je peux aller me présenter, par exemple, à l'université de Guadeloupe, s'il n'y a pas un professeur ordinaire. Je peux aller me présenter à l'université de l'Ikela, et ainsi de suite. Donc, il faut, là, on doit marteler, parce que l'enseignement souffre au Congo à cause d'abord de l'administration. Hein? Vous savez, à l'UNIKIN, les problèmes ne se posera pas. Par exemple, à l'UNIKIN, il y a les exercices d'élection qui se font dans les facultés, dans le département. À l'université de Kinshasa, le recteur, tous les recteurs, ça fait 17 ans que je suis professeur d'université, nomme le doyen, élection département, qui sont élus par les conseils de département et les conseils de faculté. C'est la seule université qui, jusque-là, où les recteurs ne dictent pas les doyens dans les facultés ou dans les départements. Bon, nous espérons que les autres universités vont emboîter les pas, et comme la loi est opposable à nous tous, Les concepts de pairs sera précisé dans les mises d'application, mais nous pensons que les pairs, ce sont les boxeurs ordinaires.
Oui, professeur, mais vous avez évoqué cela, partout il n'y a pas de professeurs ordinaires, peut-être que le problème se posera à ce niveau-là, et vous avez dit, si moi qui suis professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, vous pouvez aller à Mbandaka, vous pouvez aller à Kindu, vous présenter tout ça, mais est-ce qu'on peut, au risque, bien sûr, on n'a pas encore des mesures d'application, cela ne peut pas aussi faire à ce qu'on tombe dans le même piège, parce qu'avec les nominations, des fois les plaintes, on a eu beaucoup dans nos émissions, c'est que vous êtes par exemple à Mbujimayi et d'un coup on vous parachute, excusez-moi le terme, hein, quelqu'un nommé par le ministre qui arrive dans le milieu, on dit on le connaît pas, il maîtrise pas bien sûr comment ça fonctionne là-bas, tout de suite il y a des problèmes. Est-ce qu'on ne peut pas tomber dans le même piège qu'on se retrouve à un endroit où on n'a pas le père et quelqu'un parte d'ailleurs pour aller postuler, peut-être que les mesures d'application pourront apporter plus de précisions et cela peut être d'ailleurs intégré, n'est-ce pas, dans cette réflexion.
Oui, vous avez raison, on pourrait peut-être dire exceptionnellement là où il n'y a pas de boxeur ordinaire. Mm-hmm. Peut-être on peut accepter qu'il y ait des professeurs fous, parce que n'oubliez pas que ces recteurs-là, dès qu'ils sont investis par les chefs, par les finances publiques, ils sont d'office administrateurs du conseil d'administration de l'université.
Mm-hmm.
Vous voyez? Donc le conseil d'université comprend les recteurs comme administrateurs. Un recteur qui a été nommé, n'est-ce pas, ou un PA, vous voyez, quand il va se trouver parmi ses pairs au niveau des conseils d'administration, il sera diminué s'il a été désigné. C'est comme ça que je pense. C'est comme des élections législatives. Je prends l'exemple de l'honorable Kone Bila Kikanda, qui n'est pas de la province
du Nord Kivu,
mais qui était élu massivement à Goma. Donc ça doit être la même chose. Et si on publie, on trouve que dans tel établissement, il n'y a pas de cadre, qu'il faut aller rembourser les capacités. Le Congo est un, ce n'est pas qu'une certaine. Et puis aujourd'hui, je peux vous dire, il y a plus de 300 professeurs ordinaires. Et donc, il y a moyen de... Moi, je suis partisan, au lieu de fermer les universités publiques ou privées qui ne répondent pas aux critères... ce qu'on appelle la viabilité, il y a moyen de le regrouper. En le regroupant, on peut arriver à avoir un nombre assez important de cadres performants, de cadres compétents. Donc, j'estime que là où on ne peut pas se reverser, les pairs sont les professeurs ordinaires. Là où il n'y a pas de pairs, les professeurs passent naturellement. Attention, un professeur de l'UQIM peut aller se présenter aussi à l'IEC.
Oui.
C'est comme celui de l'IEC aussi qui est ordinaire, peut se présenter à l'IPEN, et ainsi de. On ne peut pas dire que non. Vous pouvez postuler à l'Unikin, Non, vous pouvez aller postuler n'importe où, parce que l'enseignement sur l'université est un.
Merci.
On peut vous déplacer d'une ville vers une autre. C'est comme les magistrats. C'est comme les magistrats aujourd'hui, après un certain nombre d'années, ils sont permissés pour essayer un peu de renforcer les capacités dans certaines juridictions.
Merci.
Voilà au niveau de l'élection. Maintenant, dans les étudiants, certainement les étudiants, sont dans d'autres organes, comme les conseils de faculté, les étudiants sont représentés, les conseils de département, les étudiants sont représentés, les conseils d'établissement, les étudiants sont représentés, mais à ce niveau, on ne peut pas vraiment impliquer les étudiants pour l'élection du recteur.
Voilà. Nous avons un patient qui est à Lubumbashi, Jean Awati, en province orientale. On va vous accorder la parole. Nous sommes en train là d'examiner, de partager avec le professeur Dieudonné Kalindié autour de cette innovation qui concerne l'élection des animateurs des organes de l'enseignement supérieur universitaire par leur père. Mais on pourra tout à l'heure aussi aborder l'aspect du conseil académique supérieur. Mais nous avons dit qu'il y a cette question autour de ces relations avec le conseil d'administration des universités, la structure qui est le professeur au sein de laquelle le professeur évolue actuellement. On pourra voir dans l'avenir comment vont se définir le degré de collaboration pour permettre à ce que tout cela contribue à l'amélioration de la qualité du travail. Je rappelle encore le numéro pour intervenir en direct, 081 890 4969.
Chaque jour, la fréquence de la paix unit le Congo avec le tour des provinces. Du nord au sud et des grands lacs à la mer, Radio Capi en direct de toutes les provinces. À 8h45, 12h15, 17h20 et 17h50, heure de Kinshasa. Le tour de province, vivez les informations avec les reporters de Radio Okapi.
Patients vont nous appeler des Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour Pierrot et la Meji, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi. C'est Patient Chitoku qui vous appelle à partir de Lubumbashi au Katanga.
On vous écoute, Patient.
Oui, Monsieur Pierrot, je vais commencer par ceci. Il faut l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Mais je vais vous dire la réalité des choses, ce qui se passe ici au Katanga. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, cette fois-ci, c'est la contradiction. Bon, quand vous parlez des élections, moi je regrette beaucoup. Quand bien même que la RDC, en Afrique, la RDC est en troisième position pour la corruption. Est-ce que vous pensez que vous allez quand même améliorer l'enseignement supérieur université avec ces élections-là? On va les faire comment? Bon, alors, je vais vous dire ceci, M. Pierrot. Ces gens-là dont on va voter, est-ce que ce sont ces gens-là qui vont travailler ou bien on va faire autrement, comme on a fait aux élections présidentielles? Moi, je ne pense pas que ça peut aboutir. Pour améliorer, moi, je trouverai ceci, M. Pierrot. Même si on vote, il faut qu'il y ait un mécanisme de suivi, savoir que celui qu'on avait voté, est-ce que c'est celui qui travaille? Celui qu'on n'a pas voté, il n'a pas le droit de travailler, c'est ça? Parce que quand on va élire quelqu'un, ce n'est pas pour que il a donné l'argent, il a donné quelque chose, il a donné une chèvre non plus. On doit voter quelqu'un qui est capable, qui a la capacité de travailler, de savoir non là-bas et à quoi quoi. Il faut travailler bien avec les, c'est ça le problème, M. Pierrot.
Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup,
Monsieur. C'est qu'on va voter, c'est ça.
Merci beaucoup, patient. Vous êtes d'abord très inquiet. D'ailleurs, j'ai aussi un message ici de Raphaël. J'ai un message de Rossignol Binja Emmanuel qui nous a écrit des Bukavu qui dit ceci: la modification de la loi est nécessaire pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement au niveau de nos universités, mais les grands défis qui restent à relever pour les pairs qui vont élire les animateurs, c'est la lutte contre la corruption. Et vous avez rejoint Rossignol pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on tombe dans cette faiblesse là de la corruption. Il faudrait qu'on ait des mécanismes de suivi pour s'assurer vraiment que la personne qui est élue au niveau de ces différents organes travaille vraiment pour l'intérêt de l'institution. Merci beaucoup, patient. Jean, vous êtes à Ouattara, en province orientale. Bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes, et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
On vous écoute, Jean.
Je voulais juste contribuer à l'émission. Merci beaucoup. Nous saluons la promulgation de cette loi, parce que nous, Congolais, nous sommes vraiment des spécialistes à des très beaux textes. Mais maintenant, l'applicabilité sur terrain, c'est ce qui nous pose des problèmes. Vous avez évoqué la loi évoque l'élection des membres des directions des universités. Ils seront élus par leur père. Mais nous craignons que ces élections soient, comme le disait le prédécesseur, que ces élections soient objet de la machination de ces gens-là qui vont élire, ou bien qu'ils soient, que dirais-je, qu'ils soient manipulés pour que la qualité de l'enseignement ne soit pas bon, parce que lorsqu'on va mettre un monsieur qui ne convient pas à la place, vous voyez ce que ça fera. Mm-hmm. Et l'autre crainte est que nous pouvons dire qu'il y a des textes, mais finalement ces textes là il faut que les gens aussi soient bien traités, parce qu'une fois que le monsieur qui sera élu, le recteur, par exemple, lui n'est pas mis à l'aise, il sera toujours obligé d'avoir une idée sur la corruption. Vous voyez ce que ça fera. C'était ça ma modeste contribution.
Merci Jean. Vous avez peur en parlant de la manipulation de ces élections, des animateurs. C'est la question qu'on va d'ailleurs tout à l'heure poser à notre invité, le professeur Dieudonné, hein, par rapport à la politisation des nominations. Et on peut aussi avoir peur de la politisation de ces élections. Mais et là, vous avez ajouté ce qui est notre ami Reine Tamboué, qui nous a écrit de Lubumbashi. Il dit ceci: je pense que le problème, c'est pas seulement la nomination, quoi, les élections, mais faudrait-il aussi avoir un budget conséquent qui permette à ceux qui sont élus puissent être dans les bonnes conditions pour travailler et arriver vraiment à l'amélioration de la qualité du travail au niveau des universités. On peut les élire, ça ne va pas résoudre le problème s'ils n'ont pas des moyens conséquents, un budget conséquent pour travailler. Merci beaucoup, Jean. C'est le point de vue exprimé aussi par Ray, qui nous a écrit à travers la page Facebook des paroles aux auditeurs. Nous avons Faustin qui nous appelle des Demba dans la province du Kassai occidental. Bonjour Faustin.
Bonjour messieurs les journalistes.
On vous écoute, votre préoccupation Faustin.
Ouais, ce que moi je peux demander à notre invité, c'est que le changement est vraiment bienvenu, mais c'est aussi important que l'on puisse s'atteler sur la qualité des personnes que l'on choisisse, et aussi pour voir qu'il n'y ait pas corruption, de sorte que l'enseignement au Congo puisse être vraiment bien apprécié, et surtout qu'on revoie aussi l'état des fonctionnaires, qu'ils puissent être bien nourris, peut-être qu'ils travaillent dans de bonnes conditions, donc qu'il y ait des règlements qui permettent aux fonctionnaires de bien travailler, et surtout aussi la qualité apolitique de ces élections, vraiment que ça soit vraiment des bonnes choses que nous attendons au lieu que nous puissions toujours être accoutumés aux mêmes histoires.
C'est merci. Merci beaucoup, Faustin. Vous saluez, mais vous vous intéressez aussi, hein, vous revenez sur les critères de moralité, n'est-ce pas, de ceux qui doivent être élus, mais aussi les conditions dans lesquelles ils peuvent travailler, comment éviter la politisation de ces élections pour qu'on ait vraiment des résultats et que l'enseignement soit amélioré. Merci, Faustin. Nous avons ici à Kinshasa, bienvenue, qui nous appelle de l'Université de Kinshasa. Et puis on va revenir à notre invité. Bienvenue, vous êtes avec nous, bonjour. Bienvenue, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute, nous le partageons. Hein. Si vous pouvez arrêter votre poste et récepteur, bienvenue, nous permettre de communiquer directement à travers les téléphones portables, parce que là, il y a un retour, un effet larsen sur les antennes, hein. Ça ne permet pas de pouvoir bien vous suivre. Alors, si vous pouvez arrêter votre radio, et comme ça, on va communiquer sans beaucoup de difficultés, bienvenue, on vous écoute.
Oh oui, monsieur le journaliste, merci pour l'accord de la parole. Je vous salue, je salue aussi les professeurs. Oui, ma contribution, mon apport par rapport à cette loi, moi je pense que c'est une bonne chose de démocratiser la nomination de nos autorités académiques, le recteur, le sujet. Mais je ne peux que m'aligner derrière certains amis qui ont dit que cette démocratisation risquerait de subir l'influence d'un politique, puisque nous voyons pendant les élections qui se passent, que ce soit la faculté, les droits de faculté, ou soit même au niveau de nous-mêmes les étudiants, quand on veut choisir un cordon des étudiants, qu'est-ce que nous ne voyons pas? Les hommes politiques s'intègrent, s'impliquent pour que les cordons soient de la majorité, soient clairs. Mais vous voyez, au niveau aussi des élections des doyens, ça se fait toujours de la manière suivante. Nous pensons aussi, partant de tout ce qui se passe, nous voyons, le risque serait grand que les élections aussi des recteurs, des directeurs généraux, soient aussi, pour subir l'influence de la politique. Et cela ne va pas vraiment aider l'initiative qui à notre avis, est bonne.
Merci. Oui, allez-y.
Oui, Dédé, je voudrais dire, par rapport à cette loi aussi, je rejoins un peu mon ami de Guimena, je m'en fais répondre par rapport à ce que mon ami de Guimena avait dit précédemment, que les assistants il y a certains assistants qui sont coptés par les professeurs, et ces assistants-là n'ont pas distingué, ils ont satisfait. Monsieur le journaliste, je vous informe que la distinction à l'université n'est pas due à l'intelligence. Parce qu'il y a certains amis, qui corrompent parti par là, qui l'aide une famille aussi, parfois il donne à chaque professeur $100, vous voyez que non, et il impose aussi des cotes qu'on va lui donner. Et vous voyez qu'avec ça, il peut toutefois distinguer. Tandis que nous autres, nous nous débrouillons, nous n'avons pas personne pour nous soutenir, même si tu peux faire des bonnes cotes, il y a certains professeurs, qui ne cotent pas bien ou qui cotent bien, mais quand ils savent que non, et surtout, il y a certains qui comptent aussi parfois. À travers les noms aussi, il voit que certains noms, c'est un nom de telle ou de telle tribu, il dit que non, à cet étudiant, il voit, ce nom, ce n'est pas, ça ne vient pas de tel ou comment, il ne va bien côté. Et c'est ce que je voudrais aussi dire pour les élections. Le risque est très grand que non, même si ce ne serait pas de l'influence politique, mais ça risquerait aussi d'avoir l'influence
tribale.
Mm-hmm. Alors que, qu'on soit un peu prudent, moi j'aimerais que, pendant les élections, qu'on fixe aussi les critères, si les critères de compétences. Il y a certains, parmi les professeurs d'université, professeurs ordinaires, qu'est-ce qu'il a fourni comme des œuvres? Parfois, à la faculté de lettres, combien de publications a-t-il effectué? Mm-hmm. À la faculté de médecine, quelle expérience a-t-il acquise? Donc, ce n'est pas si basé qu'il est professeur ordinaire. Oui, il y a certains professeurs ordinaires, il enseigne et il veut se méditer le cours, mais on ne sent pas grand-chose en lui. Alors, si on veut les élire par rapport aux critères, parfois, soit des publications, soit des expérimentations, cela va aussi faire de sorte que celui qui se donne à la science verra aussi que quand il est retard, il va aussi faire que la science puisse aussi évoluer. Sinon, s'il devient retard, il va se donner à l'ambiance à la politique et pour l'histoire de l'université, sera peut-être qu'il va léguer ça à d'autres personnes et lui viendra seulement pour vérifier les comptes. Alors, ça, ce n'est pas une bonne chose.
Merci. Merci beaucoup, bienvenue. Hein. Vous avez rejoint les autres qui ont insisté sur les critères de moralité, hein, les critères des sélections pour qu'on soit élu. Alors, vous avez peur parce que vous dites quand vous regardez là où vous êtes investi de Kinshasa, chaque fois quand on passe à l'élection d'un doyen, que ce soit les coordinateurs du comité des étudiants, il y a ces influences politiques qui ne manquent pas. Alors comment échapper à ces pièges aussi lorsqu'on pourra élire ces animateurs des organes? Mais vous avez aussi insisté sur la tribalisation, la politisation aussi hein, de ces élections, mais la compétence. Merci beaucoup. Bruno, vous gardez la ligne, vous êtes à Kananga. Professeur Dieudonné Kalindi, vous avez suivi les auditeurs. Nombreux reviennent hein, sur le problème de la politisation des élections, le problème de la corruption, le problème des trafics d'influence. Je sais qu'on pourra les mesures pourront déterminer comment on va procéder à ces élections. Mais déjà par rapport à l'expérience du passé, les gens ont peur. Comment on peut échapper à ces pièges de politisation de ces élections comme on a déploré la politisation des nominations? Mais il y a aussi la question par rapport aux personnes, faudrait-il être tout simplement professeur ordinaire ou il y a aussi hein, d'autres choses qui doivent accompagner, comme la compétence, il y a notre ami qui a parlé de la compétence scientifique, de la disponibilité même, pour que le professeur qui sera élu soit disponible pour rendre service à l'institution et à contribuer à l'amélioration de la qualité du travail professeur.
Ouais, merci Julien. Bon, c'est vrai que je concède à toutes ces craintes, toutes ces inquiétudes. C'est tout à fait normal. Nous sommes une jeune démocratie, et que les problèmes antivalaires minent tous les secteurs, et l'enseignement supérieur universitaire n'échappe pas à ces antivaleurs. Mais il faut relativiser. Tout simplement. Je vous donne un exemple. Au niveau, par exemple, les gens qui craignent que le tribalisme peut l'emporter sur la qualité, à la faculté de droit, le professeur Nyabirungu, il est originaire de la province du Nord-Kivu. Mm-hmm. Il n'y a seulement 4 professeurs du Nord-Kivu, sur une centaine. Mais il est à son deuxième mandat. Les exemples sont les jours dans toutes les facultés, dans tous les départements. Mm-hmm. C'est vrai que le tribalisme peut exister, mais son poids ne peut pas influer sur la qualité, sur les qualités morales, les qualités pédagogiques, les qualités académiques. Parce que c'est vrai, on peut être un professeur ordinaire, mais on n'a pas l'essence managériale, on ne sait pas gérer. Il y aura des conditions naturellement. Mm-hmm. Je vous donne un exemple. Un doyen un professeur ordinaire qui a été impliqué dans la vente des cotes, qui a été impliqué dans la mauvaise administration de sa faculté, de son département, de son centre de recherche, mais celui-là ne peut pas être éligible. Donc il aura les conditions d'éligibilité. Mm-hmm. Hein? Et là, on ne peut pas craindre. Je veux dire que les mesures d'application, je suis sûr qu'elles ne vont pas être taillées sur la tête des clients. Mm-hmm. Ce sera les mesures impersonnelles pour que toute personne, tout professeur qui estime qu'il est dans les critères, il pourrait postuler. Parce qu'aujourd'hui, Aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a des rumeurs, pas des rumeurs comme telles. À l'UNIKIN, par exemple, on s'est dit, en fait, les gens disent que pour être recteur, il faut être soit de la province du Bas-Congo ou de Bandundu. Ah, c'est dit à l'université de Kinshasa. C'est que quelqu'un d'une autre province ne peut même pas s'imaginer un jour qu'il sera recteur. Ce serait un rêve. Vous voyez? Et même la sécurité s'impliquait pour dire que vous voulez la paix à l'UNIKIN, cherchez dans les Bandundu, chez le Bas-Congo. Donc, ça c'est fini. Vous voyez? Il peut arriver qu'au Katanga, ou à l'Unilou, on ne pense qu'il n'y a qu'un Katangé qui peut être recteur. Peut-être un professeur de Bandundu qui évolue au Katanga, qui a le signe de ses pères, il peut être recteur, et ainsi de suite.
Mm-hmm.
Donc, les problèmes de corruption, de tribalisme, je ne crois pas tellement à cela. Aujourd'hui, le professeur d'université, avec le partenariat que nous avons avec le gouvernement, on a senti l'unité, la force, et même la cohésion entre pairs, la cohésion entre nous tous là. Je ne pense pas que telle personne qui sait très bien qu'il a une mauvaise presse,
mm-hmm.
s'il peut avoir la confiance de ses pairs.
Mm-hmm.
Donc nous devons nous tranquilliser, nous devons louer cette loi, nous devons être convaincus que nous voulons changer l'enseignement supérieur, et pour changer les sujets, il faut les animateurs. On dit dans l'armée qu'il n'y a pas des mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Je vous l'avais vu avec votre gouvernement. Lorsqu'on a fait la permutation, on a changé les commandements, vous avez les résultats.
Mm-hmm.
Et dans tous les secteurs, c'est comme ça. Il faut des personnes qui savent impulser, les personnes qui peuvent commander, administrer, diriger. Naturellement, les pressions seront toujours là. Mais je pense que aujourd'hui, nous devons saluer cette loi, saluer le Parlement, saluer le président de la République qui a promulgué cette loi dans moins de 2 semaines
oui.
après son adoption
oui,
au Parlement.
Oui, professeur,
donc c'est une grande avancée
oui.
et certainement, bon, il y aura toujours des ratés par-ci, par-là, mais je pense qu'au fur et à mesure qu'on fera les élections, on va corriger et ainsi de suite.
Oui, il y a cette
ceux qui seront
oui.
élus à la base, ce sont eux qui seront investis. Naturellement, dans la presse sera là, la presse va couvrir. Donc, ça serait inapproprié, n'est-ce pas, de nommer X, d'investir X, alors que c'est Y qui a été choisi à la base.
Oui, il y a cette préoccupation que j'avais par rapport au conseil académique supérieur.
Absolument, et conseil d'administration.
Oui, conseil d'administration.
Oui, comment, oui, voilà. Aujourd'hui, en fait, vous avez, je vous ai dit, il y a 12 organes. Le ministère, c'est le premier organe. Le conseil académique supérieur, c'est le deuxième. Et les conseils d'administration sur le troisième organe.
Mm-hmm.
Vous avez là-bas les conseils d'administration des universités, des instituts supérieurs techniques, artistiques et technologiques. Et vous avez les conseils académiques, les conseils d'administration plutôt des écoles supérieures. Donc il y a 4 conseils d'administration.
Mm-hmm.
Alors comment la répartition des compétences? Normalement, comme je vous ai dit, que le conseil académique supérieur est un organe consultatif d'harmonisation de curricula. C'est-à-dire que, à cet organe, on va laisser les questions les plus sensibles.
Mm-hmm.
Quelles sont les questions les plus sensibles, par exemple, sur les programmes de cours? Nous, en RDC, le programme est national. Il ne faut pas qu'une université X ait son programme.
Mm-hmm.
Donc, ces conseils pourraient, travailler sur le programme, naturellement, après les avis des organes de base.
Mm-hmm.
La création des facultés, de nouvelles facultés, la création de nouveaux départements, de centres de recherche, et je vous ai dit, si on me demandait mon point de vue, je voulais enlever la nomination, la promotion et la promotion au grade de professeur ordinaire et l'admission à l'éméritat dans tous les sites, que ce soit les instituts supérieurs, l'école supérieure, l'université, à ce niveau.
Mm-hmm.
Parce que le professeur ordinaire, c'est le dernier grade. C'est des grades. Souvent, on déplore que certains collègues accèdent à ces grades avec 2 ou 3 ou 4 articles de quelques feuillets. Il faudrait qu'on renforce les critères pour accéder à l'ordinariat et qu'on puisse regarder les méritants. Et ça, c'est le conseil académique supérieur qui peut faire cette activité.
Merci.
Les enseignements nouveaux, la création des établissements publics et privés.
Mm-hmm.
Pendant ce conseil académique supérieur, vous aurez naturellement le président et le vice-président des conseils d'administration ainsi que les présidents et les vice-présidents des conseils de l'enseignement supérieur universitaire.
L'universitaire, voilà.
Donc ce sera un organe d'harmonisation, un organe consultatif qui pourrait proposer à l'autorité l'avancement de notre système.
Voilà.
Et pour les questions d'administration,
naturellement,
on peut garder les questions standards aujourd'hui, telles que la nomination et la promotion au grade de chef de travaux, chef de bureau, professeur associé, professeur full, n'est-ce pas, ainsi que l'association de cadre organique des universités, et même on pourrait dire même la suspension même, la suspension des autorités académiques, parce que aujourd'hui les conseils d'administration sont dépourvus de force, parce qu'un conseil d'administration, qu'elle soit des IST, historiens pédagogiques, techniques, ne peuvent pas, pas proposer la suspension de l'autorité académique malgré la médiation.
Voilà.
Donc, c'était une prise dans l'ancienne loi, mais aujourd'hui, si on peut arriver à donner au conseil académique supérieur ou au conseil d'administration le pouvoir disciplinaire, et pas discipliner, ça pourrait être une avancée dans notre système éducatif.
Voilà, on va revenir à vous pour conclure. Le temps d'écouter Bruno qui est à Kananga, David est à Bukavu. Rapidement, Bruno, vous avez suivi les uns et les autres en une minute votre intervention.
Ok, bonjour Pierrot et la Meji, et bonjour à tous les branchés de Radio.
Nogala
la Kananga.
Oui.
Oui, moi je pense ceci. Tout d'abord, nous les Congolais, nous devons d'abord enlever ce qui est du tribalisme, ce qui est de qui que ce soit, et non pas parce qu'il est l'enfant de le petit frère il aurait fallu que je prenne mon petit pour le remplacer là-bas. Non, nous devons considérer la comme. Nous devons considérer la capacité de chacun de nous, et non parce que les
Oui, on a des petits soucis des lignes avec vous, Bruno, mais si je vous ai bien suivi, vous avez appelé les uns et les autres à bannir les considérations tribales, n'est-ce pas, les considérations de préférence, c'est basé plutôt sur les capacités et les compétences pour procéder à cette élection-là. Merci beaucoup, Bruno. On va terminer avec vous, David, vous êtes à Bukavu. En une minute, David, votre point de vue, bonjour. David, vous êtes avec nous, bonjour. On a des petits soucis des lignes avec David de Bukavu. On va revenir directement au professeur Dieudonné Kalindjé parce qu'on va conclure cette émission. Je crois, professeur, la loi aborde beaucoup de choses, mais on a aussi ce message d'Arafat Chamouta qui nous a écrit, qui dit ceci, c'est bien beau de mettre ces structures en place, mais la raison majeure pour améliorer la qualité de l'enseignement dans notre pays, c'est qu'il faudrait que l'État prenne ses responsabilités en améliorant les conditions de vie des professeurs. C'est ce qui est aussi très très nécessaire. Au-delà de tout, ils peuvent être élus, mais s'ils n'ont pas un salaire décent, s'ils n'ont pas des conditions de travail améliorées, ils ne peuvent pas répondre vraiment à ce que la nation attend d'eux. Merci beaucoup, Arafat, pour ce message. On revient à vous, professeur Galinje, parce qu'on va terminer cette émission. On a dit, la loi, c'est beaucoup d'articles, beaucoup d'innovations. On a pris les trois. On sent que le souci de nos auditeurs, c'est de voir la situation s'améliorer, mais il y a beaucoup de fois à fournir. On attendra encore, n'est-ce pas, les mesures d'application de tout ce qui a été décidé au niveau de la loi. Qu'est-ce qu'on peut retenir en définitive sur toutes les préoccupations en deux minutes pour conclure cette émission, professeur?
Merci beaucoup, JR. D'abord, il faut saluer cette loi. Ça, c'est la première chose. Nous devons remercier nos dirigeants qui ont tout fait pour que cette loi soit là et que d'ici 12 mois, nous espérons avoir les mesures d'application. D'abord, je note que au niveau, pour qu'il y ait l'enseignement supérieur universitaire, n'est-ce pas, des qualités, on ne doit pas se leurrer, chers amis. Il faut qu'il y ait des professeurs, des docteurs à thèse. Et ici, je dois remercier le gouvernement d'avoir amélioré un peu les conditions des professeurs d'université et de l'institut supérieur. Donc aujourd'hui, un prof d'université ne peut pas rouler, ne peut pas être à pied. C'est impossible, à moins qu'il ait un mauvais gestionnaire de ses fonds. Donc, à ce niveau, le gouvernement a déjà fait un pas, les conditions sont améliorées. Maintenant, il faut regarder les conditions maintenant de travail général, l'équipement de laboratoire, et ainsi les bibliothèques, l'Internet, et ainsi de suite. Nous espérons que dans les budgets de l'État, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts. Mais je voulais chuter par ceci, cher Amine. L'article 239 de cette loi est précis. On dit que tout établissement public ou privé agréé déjà existant, public ou privé déjà existant, est tenu de se conformer à la présente loi et aux mesures d'application évoquées à l'article 38. C'est-à-dire que dans les 12 mois, un est supérieur, université, temps public privé, qui ne va pas, qui ne sera pas dans les critères de viabilité, donc les garanties juridiques et civiques, les garanties financières et matérielles, les garanties environnementales, les garanties d'encadrement moral, pédagogique, andragogique, académique et adultes, sera purement et simplement fermé. Donc aujourd'hui, là où la crainte, il y avait une crainte, là, des universités qui n'ont pas des professeurs ordinaires, c'est que ces universités sont non viables. Donc, il faut les regrouper. Il faut les regrouper pour essayer
merci.
D'avoir un personnel de qualité. Et
merci.
Quand il y a un peu de qualité, donc personne au niveau du corps professoral, au niveau personnel et scientifique, administratif, les choses
merci,
pourraient
professeur.
Marcher. Voilà donc ce que
beaucoup.
Je pouvais dire au cours de cette émission.
Merci beaucoup,
merci
de
l'opportunité que vous m'avez donné. Les conseils d'administration, les trois conseils d'administration aujourd'hui qui existent, travaillent là-dessus. Les conseils d'administration des universités, les conseils d'administration des études supérieures, pédagogiques et techniques sont de réfléchir pour qu'il y ait des mesures d'application justes, impersonnelles, pour que cette loi soit d'application
merci, professeur.
L'année académique 2014 et 2015.
Merci beaucoup, professeur Dieudonné Kalindje, d'avoir accepté notre invitation éclairer nos auditeurs. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes conseiller chargé des textes organiques au conseil d'administration des universités. On va se retrouver demain vendredi à 11h03 heure de Kinshasa pour un autre numéro de parole aux auditeurs. Le
merci.
Programme national multisectoriel de lutte contre le sida totalise 10 ans d'existence le 17 mars prochain. La lutte contre le VIH-SIDA sera au centre de l'émission de ce vendredi en marge de célébration de cet anniversaire. 10 ans après, que pensez-vous du travail du PNMLS dans la lutte contre le VIH-SIDA et quels sont les défis à relever pour l'avenir? Merci à Gilles Lungembo qui a coordonné, réalisé cette émission mise en nom de par Willem Lungamba. Ben Kabamba l'a supervisé. Vous allez retrouver Parole aux auditeurs à 20h03 heure de Kinshasa en rediffusion, mais aussi sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir à tous.